europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce 711e et tout dernier Carrefour de l'Europe. Avec cette semaine encore, cette question lancinante et existentielle, et si l'Europe n'existait pas? La question peut paraître insolite, aberrante, voire absurde, parce qu'avec la liberté de circulation entre les 27 pays de l'Union, la monnaie commune, le programme Erasmus ou encore le plan de relance post-Covid de 750 milliards d'euros, l'Europe est devenue une évidence au quotidien pour bien des Européens. Et pourtant, combien de fois entend-on « que fait l'Europe ?» À chaque crise financière, migratoire ou sanitaire, la question de sa survie se pose. Étonnante Europe, le plus grand ensemble démocratique de la planète, le continent de l'état de droit où l'on peut s'épanouir quelle que soit sa religion ou son orientation sexuelle, le continent que tous les migrants du monde entier veulent rejoindre, mais régulièrement menacé à l'intérieur par des poussées populistes. Avec 450 millions d'habitants, soit un peu moins de 6% de la population mondiale, l'Union européenne est une construction politique originale, contestée. Longtemps, elle a cru que le reste de la planète allait par capillarité lui ressembler. Ce n'est pas le cas. La Russie de Vladimir Poutine, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan et surtout la Chine de Xi Jinping sont entrés en guerre contre notre vision démocratique du monde, perçue comme déclinante sur le plan économique et décadente sur le plan moral. Alors, si soudain l'Europe n'existait pas ou n'existait plus. Comment vivraient les Européens et à quoi ressemblerait le monde? Alors pour cette dernière émission, nous avons posé nos micros au milieu du public de la salle byzantine du palais de Boiag à l'ambassade de Roumanie. Bonjour Luca Nicolescu.
Bonjour.
Bună ziua.
Bine ați venit.
C'est encore mieux. Vous êtes l'ambassadeur de Roumanie en France et merci de nous accueillir dans cette très très belle salle. Alors, elle est tellement belle, il faut en dire un petit mot. C'est un théâtre, c'est une salle toute de rouge vêtue, on s'y sent très très bien. C'est une partie de votre résidence, car je pense que vous êtes le seul ambassadeur en poste à Paris à avoir dans sa propre résidence un théâtre de 200 places environ.
Je ne suis pas sûr qu'il fallait rendre ça public. Parce qu'on fait toujours des jaloux. Mais c'est vrai, c'est une très belle demeure que la Roumanie a achetée en 1939, qui avait été imaginée et créée par une femme, la comtesse Martine de Beag, pour accueillir des artistes sur cette scène. On a vu passer Isadora Duncan, on a vu passer Gabriel Fauré, c'était sa première audition du Requiem, ici où nous nous trouvons maintenant, et aussi des artistes roumains.
Jean-Louis Bourlange, bonjour, vous êtes le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, après avoir longtemps été eurodéputé. Le vrai poste, c'est quoi? Le vrai pouvoir, c'est eurodéputé ou député à l'Assemblée nationale?
Le pouvoir, je ne sais pas trop ce qu'est le pouvoir. Je crois l'avoir côtoyé et ne l'avoir jamais exercé. En tout cas, je crois que pour un parlementaire, il est certain que le système européen, le système de l'Union européenne est beaucoup plus valorisant. Parce que si vous êtes parlementaire, vous avez intérêt à vous situer dans la ligne de Montesquieu et pas dans celle de Rousseau. Qu'est-ce que c'est que la ligne de Montesquieu? C'est la ligne où il y a plusieurs pouvoirs indépendants qui négocient entre eux et qui s'équilibrent les uns les autres. Le pouvoir de Rousseau, c'est la volonté générale, un pouvoir, et vous risquez de ne pas l'exercer. Si vous voulez, il y a un vers de Musset, un célèbre vers de Musset qui dit « Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre ». Et le parlementaire européen peut dire de lui face aux États « Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre ». Le parlementaire national est obligé de dire « Mon verre est immense, mais c'est le gouvernement qui boit dedans
». Donc, des propos nostalgiques d'un ancien eurodéputé. Gilles Gressani, bonjour. Vous êtes le directeur d'une revue sur web qui s'appelle Le Grand Continent, qui fait de plus en plus parler d'elle. Cette idée d'abandonner les fameuses revues papier, ben vous êtes venu comment? Parce que vous êtes un jeune trentenaire?
Tout à fait. Ben, l'idée de fond du Grand Continent, c'est d'essayer de faire quelque chose qui est assez central, c'est-à-dire faire sortir l'Europe des affaires européennes. Et au fond, se rendre compte qu'aujourd'hui, si on veut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, les problèmes politiques, sociaux, culturels, en fait, il convient de les poser à une échelle qui n'est pas celle des États, mais qui est une échelle qui se retrouve plutôt à être l'échelle continentale. Et donc là-dessus, ça va s'adresser à un public qui se retrouve à Varsovie, à Milan, à Barcelone, à Paris et à Berlin, et qui cherche des choses qui sont assez semblables dans une formule, beaucoup moins les affaires internes au Parti socialiste français, beaucoup plus les affaires internes au Parti communiste chinois. C'est-à-dire, au fond, essayer de poser des questions qui ne sont pas forcément des questions déjà très bien traitées, existantes tout à fait dans le débat politique interne, dans le débat stratégique interne, mais essayer plutôt de faire ce que fait très bien l'espace anglophone, c'est de poser les vraies questions d'où se trouve le pouvoir et quels sont les vrais problèmes existentiels pour le futur.
Sophie Péder, bonjour. Vous êtes la correspondante, le chef du bureau de The Economist en France. Votre dernier livre, je l'ai traduit en français, « Révolution française, Emmanuel Macron, la quête pour réinventer une nation ». Il est publié malheureusement uniquement en anglais pour l'instant chez Bloomsbury. Et en anglais, le titre de votre livre, ce serait
Emmanuel Macron and the quest to reinvent a nation.
Je suis un peu déçu parce que...
Vous avez bien traduit, merci.
J'aurais bien aimé vous entendre dire Révolution française en anglais.
c'est le défi. Révolution française.
Alors, Carrefour de l'Europe sur RFI, comme chaque semaine, en partenariat avec Courrier International. Alors, si pour bien des Européens, l'Europe est une évidence volontiers contestée, c'est que les débuts de la construction européenne remontent déjà à 70 ans, soit à presque 3 générations, ce qui lui donne ce côté immuable. Et pourtant, l'histoire nous montre que tous les empires ont fini par sombrer et l'Union européenne n'est même pas un empire puisqu'elle n'est qu'une union. Alors, si l'Europe n'existait pas, qu'est-ce que cela changerait pour les uns et pour les autres ? On va faire un premier tour de table. Quand on parle d'Europe, Jean-Louis Bourlange, on commence toujours par dire l'Europe, c'est la paix. Et il est vrai que la construction européenne n'a pu voir le jour qu'à partir de la réconciliation franco-allemande. Alors, si l'Europe n'existait pas, Jean-Louis Bourlange, on serait en guerre ?
Moi, je considère que la paix, c'est l'Europe. Pourquoi ? L'Europe, c'est la paix, ça semble vouloir dire que c'est l'Europe qui a fabriqué la paix. La réalité historique, c'est que c'est l'Alliance Atlantique qui a déterminé des rapports en Europe tels qu'il était possible de faire l'Europe sans se battre entre voisins. Sans la présence américaine, les Français n'auraient jamais pu faire confiance aux Allemands. Les Allemands n'auraient jamais pu faire confiance aux Français. Et les Néerlandais n'auraient jamais pu faire confiance ni aux Français, ni aux Allemands. C'est en réalité, c'est pas seulement la présence américaine, ce n'était pas seulement une protection vis-à-vis des Russes, c'était une garantie que nous pouvions, nous les peuples européens, à la différence de ce que nous avions fait dans les années 20 et dans les années 30, se rapprocher les uns des autres sans risque, sans danger. Et nous avons donc appris à travers ce mécanisme, à travers ce dispositif, à vivre ensemble. Et puis vient un moment où la vieille Europe, qui était retombée en enfance, retrouve le chemin de l'âge adulte. Et ce moment est peut-être venu. Et à ce moment-là, il va falloir qu'on vive sans nos parents. L'Amérique, notre fille, disait le général de Gaulle, c'est aussi l'Amérique, notre mère, ici. Et il faudra qu'on vive sans elle. Est-ce que nous en serons capables ? C'est maintenant qu'il s'agit de répondre à cela dans les 2-3 ans qui viennent. Et si nous répondons oui, on aura un vrai avenir dans le monde de demain. Si nous répondons non, je crois que notre sort sera beaucoup plus médiocre et, à vrai dire, scellé.
Alors, on a presque une heure pour parler et tenter de répondre à cette question. Et je me rends compte, honte à moi, que j'ai oublié de présenter Pierre Aski. Honte à moi, Pierre Aski, journaliste fondateur de Rue 89, éditorialiste à l'Obs et puis chez nos cousins et amis de France Inter. Alors, Pierre Aski, éternel globetrotteur, et si l'Europe n'existait pas, à quoi ressemblerait le monde ?
D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Louis Bourlange, parce que effectivement, on entend souvent, en réponse à cette question, ça serait la guerre. Et je pense qu'on ne tient pas compte, quand on dit « ça serait la guerre », de l'Alliance Atlantique qui a été quand même la grande différence entre l'après-première guerre et l'après-deuxième guerre, c'est que les Américains sont restés et ont construit cette alliance dans un contexte de guerre froide qui aurait vraisemblablement empêché la guerre entre des pays que les Américains voulaient préserver pour faire face au péril soviétique à l'époque. Le vrai test, je pense, il aurait été au moment de la chute du mur. Parce que moi, j'ai couvert de manière très, très suivie cette période de la chute du mur jusqu'à la réunification allemande. Et je ne sais pas comment l'Europe aurait résisté si elle n'existait pas. Et malgré l'existence de la communauté européenne de l'époque, on a bien vu que des vieux réflexes revenaient. Il y a des souvenirs comme ça, vous savez, qui sont dans cette histoire européenne formidable. François Mitterrand arrive à Kiev, accueilli par Gorbatchev. Il descend de l'avion et on est en plein hiver, en pleine négociation sur la réunification. Et Mitterrand avait sa chapka à l'envers. Et Gorbatchev lui prend sa chapka et la remet à l'endroit. Geste affectueux, mais qui était tellement symbolique de cette alliance franco-russe qui se recomposait contre cette Allemagne dont on ne savait pas trop où elle est. Tout ça n'a pas d'importance historique aujourd'hui parce que finalement cette réunification allemande a été très bien gérée. Donc cette intimité-là, elle n'aurait pas existé sans la construction européenne. Et je pense que là, on aurait eu un moment où l'édifice aurait véritablement tremblé.
Alors Gilles Gressani, vous avez la trentaine, et pour les jeunes de votre génération, la paix est évidemment une évidence. Alors que pour vous, si l'Europe n'existait pas, ben, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui serait important? Qu'est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui?
J'ai envie de répondre à cette question par questionner la question. En gros, c'est assez rare de trouver des institutions politiques qui fassent l'objet de façon aussi fréquente de cette interrogation de pourquoi ça ne s'écroule pas, pourquoi ça existe. En fait, on se pose assez rarement cette question sur la France, le Royaume-Uni, enfin même l'Italie, même si c'est un peu plus délicat. Et en fait, c'est très, très intéressant parce que je trouve que d'un côté, ça montre que c'est un objet qui est non identifié. En fait, son inertie, si on regarde effectivement l'actualité média des dernières 20-30 années, en fait, le nombre de couvertures qui disent le moment de la vérité, encore le risque, la crise, en fait, le signifiant Europe est toujours associé, au fond, à cette menace existentielle. Et en même temps, on remarque aussi, comme l'ont dit de façon différente, mais convergente, Bourlange et Aski, au fond, on retrouve une inertie. Et d'où vient cette force, en fait, d'où vient cette inertie?
Une résilience.
Une résilience, si on veut reprendre effectivement les mots du jour. Mais au fond, on peut se dire, et c'est un peu l'hypothèse que j'aimerais avancer, c'est que, quelque part, ce qu'a réussi à faire, cette chose un peu bizarre qui est l'Union européenne, c'est de donner une mission, un objectif, une ambition à des États qui n'étaient pas forcément des États-nations territorialement européens, c'était presque tous des empires avec des colonies, a donné une voie de sortie de l'empire. Et c'est là, effectivement, que ce mot qu'aujourd'hui on retrouve dans presque toutes les interventions, en fait, l'empire, aujourd'hui on se rend compte qu'on se retrouve aujourd'hui à nouveau entre deux empires, entre deux formes, une qui est beaucoup plus récente, la Chine, l'autre qui est beaucoup plus antique, on la voit aussi un peu plus craquelée, avec beaucoup moins de jeunesse dans son ambition, dans sa demesure, peut-être presque dans son hubris. Et au fond, la question qui se pose pour les États membres qui font de cette construction quelque chose qui est résilient, qui a une inertie, c'est est-ce que c'est possible d'être une forme de pouvoir sans être une forme impériale? Et est-ce que c'est possible? C'est au fond la question de fond, et je pense qu'on peut expliquer une bonne partie du Brexit par ça. Les nations qui n'ont pas réussi à oublier leur puissance impériale, oublier l'Empire, en fait, sont celles aussi qui ont eu le plus de difficultés à s'intégrer dans la construction européenne.
Alors justement, on a l'impression que vous avez tendu le micro à Sophie Péder. Il y a donc un pays qui a fait comme si l'Union européenne n'existait pas, mais en tout cas n'existait plus, c'est le Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui a changé pour le Royaume-Uni depuis que Londres s'est éloigné de Bruxelles et du continent? Alors, à l'échelle de l'histoire, il s'est écoulé 6 mois, c'est très très peu de choses. Et probablement qu'on verra les conséquences du Brexit dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans et peut-être plus. Mais qu'est-ce qui a déjà changé au Royaume-Uni depuis que Londres a largué les amarres de Bruxelles?
Oui, alors, je commencerai juste avec un petit rappel. C'est que c'est seulement la moitié du Royaume-Uni qui a voté pour le Brexit. Donc, il ne faut jamais oublier que ça reste un pays extrêmement divisé. Et quand vous demandez comment se sentent actuellement les Britanniques vis-à-vis du Brexit, la moitié sont malheureux. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas un pays uni sur ces questions-là. Mais on fait avec, et donc il y a certains qui sont absolument ravis de reprendre le contrôle pour employer le slogan de campagne du Brexit. Je pense que c'est difficile à ce moment-là vraiment de faire le bilan parce que c'est trop nouveau, c'est trop compliqué à distinguer les effets de la pandémie des effets du Brexit. C'est un moment compliqué pour le gouvernement et pour le peuple de façon générale. Mais on peut constater quelques éléments, je pense. Le premier, c'est que c'est quand même compliqué d'être un État souverain de la taille du Royaume-Uni actuellement. Et ça, le gouvernement britannique, les Britanniques découvrent.
65 millions de Britanniques pour un peu moins de 8 milliards d'habitants
voilà,
sur la planète.
Voilà, exactement. Et la même taille en termes de population que la France. C'était le rêve des Brexiteurs, c'était d'agir comme un État égal avec les autres partenaires. Mais c'est très compliqué. C'est même juste de nouer, de construire, de négocier des accords de commerce de base. Quand vous êtes une économie de la taille du Royaume-Uni, c'est beaucoup plus compliqué que c'est pour l'Union européenne. Et un des paradoxes, quelque part, que je constate, c'est que le Brexit, en quelque sorte, a été un vecteur d'unité parmi les 27 qui restent, qu'à l'époque, on avait imaginé, ou on craignait peut-être une espèce d'effet domino, que le Royaume-Uni allait partir, et ensuite un deuxième État membre, un troisième, etc. Ce n'a pas été le cas du tout. Et donc on a à la fois, je trouve, une Union européenne plus unie, malgré les divisions, malgré les différences, évidemment, entre États membres, mais plus unie en général, et qui restait unie pendant toutes les années de négociations avec le Royaume-Uni pour le Brexit.
Qui était évidemment une grande surprise pour les Britanniques.
C'était une grande surprise qui espérait exactement jouer les Allemands contre les Français ou trouver des divisions quelque part qui n'ont jamais eu lieu. Donc on a à la fois des difficultés pour le Royaume-Uni et l'unité pour l'Union européenne. C'est le paradoxe que je constate.
Alors en tout cas, l'histoire du Brexit, c'est quand même que l'Union européenne n'est pas une prison. On peut sortir de l'Union européenne. C'est compliqué, c'est fastidieux, ça prend du temps. Alors quand on entend évidemment le Premier ministre Viktor Orban qui compare l'Union européenne à l'Union soviétique, c'est bien de lui rappeler que quand même on peut facilement quitter l'Union européenne au cas où parfois il aurait peut-être une petite envie. On ne sait jamais. Luca Nicolescu, vous êtes le premier des Roumains ici, puisque vous êtes l'ambassadeur de Roumanie en France. Alors pour un Roumain qui a vécu dans un monde très fermé, le monde de Nicolae Ceaușescu. Soudain, à partir de 89, le pays s'ouvre et en 2007, la Roumanie rejoint l'Union européenne. Qu'est-ce que ça a représenté pour les Roumains et la Roumanie de rejoindre ce grand ensemble qui s'appelait à l'époque la Communauté européenne et qui s'appelle maintenant l'Union européenne?
C'est simple, si l'Europe n'existait pas, nous on ne serait pas ici.
Et nous non plus, alors
voilà,
du coup.
Vous non plus. Nous, on ne serait pas ici en train d'enregistrer cette émission parce que l'Europe n'existait pas, la Roumanie ne serait pas membre de l'Union européenne et on n'aurait pas eu à quoi rêver. Parce que vous avez dit très bien, avant 89, on vivait en Roumanie dans l'une des dictatures les plus terribles que ce continent a connues. Il n'y avait pas de chauffage dans les appartements grelottés, il n'y avait pas de nourriture dans les magasins, il n'y avait aucune liberté d'expression, il n'y avait aucune liberté de circulation. Et qu'est-ce qu'on faisait? On restait dans les maisons, on pouvait avoir un peu de lecture, parce que des livres, on en trouvait. On écoutait des radios étrangères, dont RFI, et on rêvait d'Europe. On voulait vivre en Europe, on voulait être comme en Europe. Et puis, il y a eu cette révolution de 1989. Et puis, il y a eu un cap qui a été clair. On veut adhérer à l'Union européenne avec des hauts et des bas, évidemment, avec des moments où on pouvait avoir l'impression que c'était le recul. Et puis, mais le cap est toujours resté le même. Et en 2007, on adhère à l'Union européenne. Et depuis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous donner des chiffres économiques, par exemple, ça parle toujours. Le PIB de la Roumanie a plus que doublé en 14 ans depuis qu'on est membre de l'Union européenne. Les Roumains assument les valeurs européennes. Quand tu regardes tous les chiffres sur leur désir d'appartenir à l'Europe, c'est toujours le peuple qui est parmi les premiers à vouloir être membre de l'Europe. Donc, voilà, c'est l'Europe. Pour nous, c'est un rêve accompli.
On peut peut-être, une petite illustration, mais la procureure générale de l'Europe est une Roumaine.
Est une Roumaine, voilà.
Ce qui en dit long sur le chemin que ce pays a parcouru, que votre pays a parcouru à travers son adhésion à l'Europe. Alors, néanmoins, le Brexit a été quand même la manifestation britannique d'une défiance d'une partie de la population à l'égard de l'Union européenne. Mais ce qui est vrai, évidemment, en Angleterre, l'est dans tous les autres pays de l'Union européenne où des partis populistes prospèrent. Alors, pourquoi ces partis populistes prospèrent-ils en Europe? Ils sont apparus dans deux pays qui me sont chers, le Portugal et la Roumanie, parce que peut-être que l'Union européenne ne s'est pas montrée aussi assez protectrice envers les Européens, les plus faibles d'entre eux, les travailleurs qui voient par exemple leur usine mettre la clé sous la porte ou se délocaliser. Alors, en ouvrant, je m'adresse à vous Jean-Louis Bourlange, en ouvrant toujours plus grand son marché, elle a toujours privilégier le consommateur européen plutôt que le travailleur européen. Alors, pour être un peu caricatural, le textile asiatique pas cher plutôt que le textile made in EU, et bien sûr les appareils numériques qui viennent tous d'Asie et pas de pays européens. Est-ce que, Jean-Louis Bourlange, un échec de l'Europe qui la met peut-être en péril au niveau de l'adhésion ou non des Européens, c'est que l'Europe aurait quand même peut-être abandonné une partie des Européens, ben ceux qui ne sont pas dans la mondialisation.
Non, moi je ne crois pas du tout. Je pense que le moment où l'Europe a refusé le libre-échange, ça a été dans les années 30 et ça a été une véritable catastrophe. Donc je crois que l'autarcie ne rend rien et tout ce qu'on a vu depuis 1945, c'est que le mouvement d'ouverture des frontières s'est accompagné d'un taux de croissance extrêmement élevé, d'une augmentation du niveau de vie considérable, et que, comme il a été rappelé à l'instant, l'ouverture aux pays d'Europe centrale et orientale après l'effondrement de l'Union soviétique s'est traduite par l'extension de cette réalité à ces pays. Regardez, par exemple, faites la comparaison entre la situation économique depuis 30 ans de la Pologne par rapport à celle de l'Ukraine. Je crois que on voit bien qu'en réalité, tout cela a été extraordinairement porteur. Alors, ça ne veut pas dire, ça, là où vous avez raison, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des perdants. Ça ne veut pas dire que, par exemple, ce genre de système profite d'abord aux pays les plus imbriqués, notre pays notamment de l'axe rhénan. Donc on doit mener une politique, on la mène, en faveur des États plus périphériques de l'Union européenne pour essayer de les gagner à cela. Mais ça marche. Moi, je constate que le rapprochement entre l'Est et l'Ouest a été fondamentalement positif, a été curieusement beaucoup plus réussi que le rapprochement entre le Nord et le Sud dans le cadre de l'euro, pour des raisons d'ailleurs qui ne me paraissent pas être liées fondamentalement à l'euro, mais qui me paraissent être liées à des difficultés de pays comme l'Italie, surtout l'Italie, mais aussi la France, à s'insérer correctement dans la division internationale du travail. Et puis derrière ça, il y a quelque chose qui est là où je rejoins les critiques implicites qui sont dans votre question, c'est que l'Europe est inachevée, même sur le plan de la politique économique. Nous n'avons pas les instruments complets qui nous permettent de faire de ce qui est un marché intérieur une véritable communauté économique. Nous n'avons pas un véritable level playing field. Nous n'avons pas une politique fiscale commune. Moi, je trouve aberrant que nous n'ayons pas un impôt sur les sociétés qui soit le même pour tous les pays d'Europe. Nous sommes en marché intérieur, nous devrions faire ça. Nous n'avons pas une politique de solidarité suffisante. On voit, par exemple, je ne parle pas de la Roumanie, mais prenons l'Espagne. L'Espagne forme des étudiants à grands frais, des élèves, et à 20 ans, compte tenu de la situation de l'emploi un peu différente en Espagne et en Allemagne, ceux-là vont en Allemagne. C'est pas normal. Ça veut dire que les Espagnols payent la formation de travailleurs allemands. Alors, troisièmement, il y a la pandémie. La pandémie, elle nous oblige à revoir la façon d'aborder certains aspects de la globalisation, mais je crois que c'est une illusion complète que d'imaginer que ça recréerait des zones économiquement autarciques, autonomes. Ça nous oblige effectivement à réfléchir à nos industries stratégiques, à voir pourquoi nous ne sommes pas à l'aise, comment trouver des métaux rares, enfin, il y a tout un ensemble de réflexions à avoir, mais je pense que véritablement, ce n'est pas dans le repli protectionniste, mais c'est dans une interdépendance gérée politiquement, au plan européen et aussi au plan mondial, que nous pourrons véritablement progresser. Donc c'est vrai, il faut retrousser les manches et il faut agir. Et ça, c'est pas un message qui est facile à faire passer.
Alors retrousser les manches, on peut commencer à retrousser les manches au niveau du concept. Il y a un concept qui fait, non pas fureur, mais qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans la discussion européenne. Pierre Aski, c'est l'idée de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique. Alors c'est évidemment un concept défendu par Emmanuel Macron et qu'il a repris dès son premier discours de la Sorbonne, dès son élection en septembre 2017, c'est une idée qui a quand même un peu de mal à passer au niveau des 27 pays de l'Union européenne. Quand on parle de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, on ne parle pas forcément la même chose à Riga et à Lisbonne, et à Dublin, par exemple. Néanmoins, c'est une idée qui progresse.
Alors, il y a plusieurs dimensions à cette question. La première, c'est que si on parle de souveraineté aujourd'hui, c'est qu'on l'a en partie perdue. Et que l'Europe s'est endormie pendant 20 ans. Il y a certes la part de succès dont parlait Jean-Louis Bourlange qui est incontestable, mais il y a aussi le fait, je pense, qu'à un moment, les dirigeants européens ou la génération des dirigeants européens a cru, comme on disait à l'époque, que c'était la fin de l'histoire, que le monde était une vaste social-démocratie
en devenir,
et que la seule conquête était celle de la redistribution de nos richesses et de l'amélioration de notre État-providence. On s'est gravement trompé et on a raté un certain nombre de trains, à commencer par ceux de la technologie, par exemple. Le fait qu'il n'y ait aucun géant du numérique en Europe, c'est un échec accablant. Et en plus, on l'a fait en toute connaissance de cause. Je donne un exemple, la téléphonie. Il n'y a plus un seul fabricant de smartphones. Il reste Nokia et Ericsson qui font de l'équipement, mais il n'y a plus un seul fabricant de smartphones en Europe aujourd'hui digne de ce nom. Mais il y a 20 ans, Alcatel, qui était un grand constructeur français, a été adepte du fabless, c'est-à-dire on abandonne les usines.
Voilà. On construit
nous,
en Europe.
Nous, on a la matière grise et on laisse les usines partir en Chine. Et ça a été une erreur absolument fatale. Et aujourd'hui, on est là à essayer de recréer des bases industrielles. Donc cette souveraineté, elle est en partie du rattrapage. La deuxième dimension, elle est effectivement stratégique, c'est-à-dire que le monde a changé, le monde est aujourd'hui dans une nouvelle recomposition des rapports de force avec des puissances nouvelles, émergentes, nouvelles ou anciennes. La Chine est à la fois une puissance nouvelle et une puissance très ancienne, mais aussi la Turquie ou la Russie à nos portes. Et il y a un doute chez un certain nombre d'Européens que Trump avait mis de côté, qui était est-ce que l'Amérique est toujours notre parrain, notre protecteur, notre allié.
Soudain, il y a voilà. Eu un doute.
Et Trump a mis le doute et a donné naissance et a permis justement à ce discours d'Emmanuel Macron de faire mouche, c'est-à-dire oui, à partir du moment où on n'est pas sûr d'avoir la protection américaine, il vaut mieux qu'on y pense nous-mêmes. Et puis Biden arrive et là, tout d'un coup, il y a une partie de l'Europe qui se dit bon, finalement, les Américains, c'est pas si mal et pourquoi se casser la tête à se poser des questions que les Américains se posent très bien et savent gérer. Donc c'est la phase actuelle, elle est celle-là. Ça fait que 6 mois que Biden est à la Maison-Blanche, mais on voit bien que la donne a changé et qu'on a l'impression que l'acuité de la question de la souveraineté européenne, elle n'est pas aussi grande qu'auparavant.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, et si l'Europe n'existait pas, n'existait plus, nous sommes dans la très belle salle byzantine de l'ambassade de Roumanie avec Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, avec Jean-Louis Bourlange, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec Gilles Cressani, directeur de la revue Le Grand Continent, avec Pierre Aski, éditorialiste à l'Obs et à France Inter, avec Sophie Péder, correspondante de The Economist en France, avec son dernier livre, et bien, je vais dire encore une fois en français, Révolution française, Emmanuel Macron, la quête pour réinventer une nation. Alors, on a un peu abordé le sujet, on s'est un peu éloigné, on a remis un peu l'Europe au milieu des 24 fuseaux horaires de notre monde. Et ce qui pose une question pour les Européens qui ont longtemps cru que l'organisation du monde allait peu ou peu ressembler à celle de l'Europe, démocratie, état de droit, économie libérale, compensée par un État-providence. Mais des pays comme la Russie ou la Turquie ont fait un autre choix avec des réussites discutables. Quant à la Chine de Xi Jinping, elle mène une offensive tous azimuts, économique, politique, géostratégique, idéologique et morale, contre le monde occidental et particulièrement l'Europe perçue comme économiquement déclinante et moralement décadente. Alors, l'Europe fait-elle le poids? Ça a été un dossier de Courrier international, et à cette question, le Courrier international a dit « l'Europe ne fait pas le poids ». Autrement dit, ces valeurs contestées par des pays cette difficulté que l'Europe a à être dans l'économie d'aujourd'hui, dans l'économie numérique, quels sont, Gilles Cressani, les chances que l'Europe puisse bien recoller au peloton de tête? Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard?
C'est une question qui est différente si on la pose à quelqu'un qui effectivement a plutôt 30 ans que quelqu'un qui en a plutôt deux fois autant. Parce qu'évidemment, la question de fond, c'est celle d'un sentiment explicite de déclassement. Et c'est quelque chose qui, je pense, joue un rôle qui est particulièrement compliqué dans la création en fait d'un projet politique en Europe. C'est très concrètement comment faire pour avoir un projet qui soit positif et qui soit pas simplement un projet réactif par rapport à une crise. Et là-dessus, je crois qu'il y a un problème qu'on peut résoudre et qui est un problème qui est vraiment fondamental pour l'Europe. C'est-à-dire, au fond, on se retrouve aujourd'hui avec des débats nationaux qui sont de plus en plus obsédés par des questions qui ne touchent que des éléments superficiels. En fait, on a beaucoup de mal à poser des questions qui soient politiques, intellectuelles et stratégiques, et donc fondamentalement, pas simplement à l'échelle de la France, pas simplement à l'échelle de l'Italie, pas simplement à l'échelle de l'Allemagne, mais à l'échelle du continent, à l'échelle du monde. Et là-dessus, il y a un sujet. C'est que, est-ce que c'est possible, je reprends votre image, de reprendre une position de tête dans le peloton, sans être capable de développer un espace de débat qui soit autonome? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on peut vraiment poser la question de l'autonomie stratégique dans des think tanks à Washington et dans des revues américaines? Et ça, c'est au fond une vraie question, parce que ça implique aussi de répondre à une autre, qui est que, est-ce qu'il y a un public en Europe pour ce genre de questions? Mon expérience, et aussi un peu mon pari, c'est que ce public existe, qu'il faut trouver la façon pour le coordonner. Le problème fondamental est vraiment celui du, évidemment, réussir la transition du numérique, mais aussi être capable de coordonner des personnes qui, tout en se retrouvant dans des villes très différentes, au fond, ne sont pas si différentes. Moi, je pense que si le maire de Varsovie parlait avec le maire de Budapest et avec la maire de Barcelone, il y aurait pas mal de choses qu'ils auraient en commun. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les présidents des États. Mais en tout cas, on se rend compte aujourd'hui, il y a une demande, en fait, qui n'a pas d'offre pour politiser des sujets qui puissent permettre aussi de poser la question de la légitimité. Aussi, donc, en dernière instance, du déploiement infrastructurel qui permet de répondre à des problèmes de fond. Et là-dessus, si on reste dans cette inertie, dans cette conservation, c'est inévitable, en fait, qu'on sera de plus en plus occupé à parler de questions tout à fait marginales, alors que de l'autre côté, à la fois les États-Unis et à la fois la Chine ont su, de façon très différente, poser des questions pour déployer en fait une nouvelle organisation du monde.
Sophie Feder, avec le Brexit, les Britanniques ont voulu reprendre le contrôle de leur économie, de leur destin. Et voilà. Est-ce que c'est une bonne façon de s'y prendre en étant finalement 65 millions, alors que l'idée en Europe, avec l'autonomie stratégique, une idée qui devient centrale un peu dans le débat européen, c'est de dire que l'Europe, c'est évidemment un grand marché, 450 millions d'habitants, c'est même le plus grand marché au monde, donc il y a beaucoup de convoitises, notamment celle des Chinois. Mais est-ce que le moment pour l'Europe n'est pas de réfléchir en termes de puissance? Et ça, c'est évidemment tout à fait nouveau dans la réflexion européenne. Comment on voit ça, ce débat d'une Europe qui doit devenir petit à petit une Europe de puissance si elle doit s'imposer entre le continent asiatique avec ce grand pays continent de la Chine et puis évidemment les États-Unis qui sont celles de Biden plus sympathiques, évidemment beaucoup plus courtois. Les États-Unis de Biden sont, par rapport aux États-Unis de Trump, c'est évidemment beaucoup plus agréable à entendre phoniquement, mais c'est quand même, ça reste les États-Unis. Et Joe Biden, il a dit d'abord America first, comme aurait pu le dire Donald Trump. Comment ce débat est perçu au Royaume-Uni, ce pays qui a tendance un peu à se replier sur lui-même?
Mais plusieurs questions dans votre question, je trouve, Daniel, mais pour essayer de répondre, je pense qu'il ne faut pas oublier les conditions de l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne en 1973. C'était aperçu pour les Britanniques ou le gouvernement à l'époque comme un projet économique. Ce n'était pas aperçu comme un projet politique, c'était pour avoir accès au marché. Donc c'était vraiment ça à la base de la perception et l'image qu'avaient les Britanniques de l'Europe. Et je pense qu'il y a des phrases qui faisaient peur aux Britanniques, certainement aux Brexiteurs, mais même dans l'establishment britannique, c'était Europe puissance, une armée européenne. Ce sont des tabous au Royaume-Uni, ce ne sont pas des rêves. Donc ça, c'est une première chose. Le paradoxe, pour moi, c'est que le Royaume-Uni part et quitte quoi? Quitte le marché unique. Donc précisément le marché pour lequel le Royaume-Uni voulait entrer à l'origine. Et le Royaume-Uni se trouve maintenant dans une situation compliquée parce que même pour vous allez dans le Marks & Spencer à Paris, vous n'allez pas trouver les mêmes produits que vous avez trouvés il y a 12 mois parce que c'est compliqué de passer tous les contrôles, de remplir tous les formulaires.
Il y a des normes européennes qui ne sont pas forcément les normes britanniques, par exemple.
Oui, et donc ça c'est une partie de la réponse, question économique. Mais l'autre question, c'est la question stratégique, question de sécurité. On avait parlé tout à l'heure de l'autonomie stratégique dans le sens économique, mais dans le sens géostratégique militaire, quelle est l'autre puissance, grande moyenne puissance militaire en Europe de façon géographique? C'est le Royaume-Uni. Donc, si la France souhaite construire quelque chose de sérieux en matière de défense, très, très difficile de faire ça sans le Royaume-Uni. Mais on est dans une situation maintenant où on n'a pas le niveau de confiance nécessaire entre la France et le Royaume-Uni, ou même le Royaume-Uni et l'Union européenne, parce que la parole du Royaume-Uni n'a pas été respectée vis-à-vis du protocole de sortie du Royaume-Uni. Donc on est face à un grand défi, difficile à résoudre sans le Royaume-Uni. Je parle du défi sécuritaire, militaire, mais dans une situation où la confiance n'est plus là, ça va prendre des années, à mon sens.
Ce n'est pas dans les 5 ans à venir qu'on va avoir une nouvelle candidature britannique pour rejoindre l'Union européenne, si j'ai bien compris.
Il y a mon propre point de vue, j'aimerais bien, mais je ne le vois pas.
Devenir Premier ministre, ça va quand même être une affaire difficile.
Pas dans le court terme.
Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie, comment voit-on à Bucarest, un pays qui a rejoint l'Union européenne en même temps qu'il a rejoint l'OTAN et donc le parapluie américain, comment voit-on cette idée d'Europe puissance? C'est un gadget, c'est une idée, c'est un concept, on en parle, mais surtout qu'il ne se passe rien.
C'est très intéressant comme discussion. Tout d'abord, pour répondre à une autre question sur l'Europe qui s'affaiblit, moi je citerai un écrivain français peut-être un peu oublié, Paul Claudel, qui disait que le pire n'est jamais inévitable. Donc voilà, il ne faut pas Il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas un sursaut. À un moment donné, on est en train de réfléchir. Il y a des réflexions un peu partout. Et voilà, le génie européen, comme le génie français, existe. Et vous avez bien mentionné le fait qu'on soit rentré dans l'Union européenne presque en même temps que dans l'OTAN. Et pendant longtemps, pour les Roumains, il y a eu cette expression, l'adhésion euro-atlantique. Donc pas seulement l'adhésion à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. Et pour la Roumanie, voilà le partenariat qui existe avec les États-Unis, le partenariat transatlantique, est très important. Et je pense qu'il faut aussi faire un peu attention, quand on parle de ces concepts, autonomie stratégique, souveraineté européenne, de ne pas jeter, qu'on dit en roumain, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
On le dit aussi en français.
Voilà. Donc il ne faut pas précipiter les choses, et vous disiez voilà l'Europe entre la Chine et les États-Unis, c'est des pays complètement différents, on ne partage pas les mêmes valeurs avec la Chine alors qu'on partage beaucoup des valeurs avec les États-Unis, on partage beaucoup des valeurs avec le Royaume-Uni qui a quitté l'Europe, mais on est voilà, il y a plein de pays avec lesquels on partage des valeurs et avec lesquels on peut construire ensemble. Donc voilà, c'est un peu ça ma réponse quant à l'autonomie stratégique. C'est bien, mais pas se précipiter.
Alors on arrive vraiment, Jean-Louis Bourlange, au terme de cette émission, et je vais vous poser un dernier petit tour de table, très rapide, Jean-Louis Bourlange. C'est un vrai défi pour vous, très rapide. Et si l'Europe n'existait pas, Jean-Louis Bourlange, en 20 secondes? Il faudrait l'inventer ?
Non, je crois que le problème est qu'elle n'existe pas. Le problème est très simple. L'Europe, actuellement, c'est un club dont on ne dit pas qui doit en être membre ou pas, dont on ne dit pas quel est l'objet social ou pas, et dont on ne dit pas quelles sont les règles de fonctionnement. Étrange club ! Comment voulez-vous créer une identité autour de cette triple incertitude ? Et les Européens commenceront à relever les défis que nous avons évoqués du jour où ils regarderont clairement ces questions. À la différence du soleil et de la mort, l'Europe doit se regarder en face.
Pierre Aski, difficile de rebondir. Et si l'Europe n'existait plus, alors il faudrait la réinventer de nouveau.
Moi, je pense qu'il faudrait que tous les Européens aillent faire un tour en Chine. Parce que moi, je suis vraiment devenu Européen à Pékin. C'est-à-dire que, vu de Pékin, d'abord, ce qui réunit l'Europe est beaucoup plus important que ce qui la divise. Et donc, ce sentiment d'un univers commun est très fort quand on est loin de l'Europe. Et deuxièmement, on se rend compte aussi que, face à la puissance émergente de la Chine, mais qui est aujourd'hui bien déployée, nos petits pays européens, vous avez cité dans l'émission la semaine dernière cette phrase formidable
de Paul Rispac.
Voilà, l'Europe, c'est que des petits pays, mais certains se croient plus grands, c'est ça?
En Europe, tous les pays sont petits, mais certains ne le savent pas.
Certains ne le savent pas, voilà. Cette phrase est formidable, mais quand on est à Pékin, on le sait. Et donc, c'est ça, ce regard lointain, c'est peut-être ce qui pourrait sauver l'Europe.
En quelques mots, Gilles Gressani, si l'Europe n'existait pas.
Moi, je suis d'accord, il faut l'inventer. Et c'est là quelque chose d'absolument intéressant, parce que ça signifie très concrètement qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas la fin de l'histoire, mais on peut réinventer des formes d'engagement politique, d'institutions. C'est pour ça que je pense que c'est très important que ce ne soit pas simplement quelques économistes et quelques juristes qui prennent ce sujet. Il faut que vraiment ça parle à l'intégralité des sciences sociales, des arts, de la littérature. Il faut remettre au cœur de la construction européenne, en fait, ce qui a fait son inertie.
Sophie Péder, les Britanniques ont constaté que l'Europe n'existait plus. Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
J'espère que s'il y a une leçon à tirer du Brexit, c'est que c'est plus difficile d'être un pays moyen en dehors que d'être dedans. Et donc j'espère que sincèrement que ça, au moins, il y a une leçon là quelque part pour l'Europe, qu'il faut mieux être ensemble et construire quelque chose de positif.
Et regarder dans la même direction, malgré évidemment toutes les imperfections de l'Europe que l'on connaît, mais ce n'était pas du tout le thème de l'émission aujourd'hui. Luca Nicolescu, alors, si l'Europe n'existait pas?
L'Europe est, pour moi, la plus belle construction que l'humanité ait faite, la plus belle, la plus lumineuse. Et je pense qu'il faut arrêter de pleurnicher et de continuer à réfléchir et à la construire.
Nous approchons vraiment à grande vitesse de la fin de cette émission. Je vais appeler dans la salle deux jeunes Européens, Niklas Munch et Nadia Ben Mahfoud. Ils sont là. Merci de monter, non pas les marches de Cannes, mais les marches de la salle byzantine de l'hôtel de Béag. Niklas est allemand et Nadia est franco-tunisienne. Cette Europe, il y a eu 3 générations, je l'ai dit au début de l'émission, qui l'ont construite. Bah, vous êtes la 4e. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Comment vous voyez cette Europe?
Eh bien, moi, peut-être que je vais me distinguer un peu de ceux qui ont connu l'Europe au siècle dernier. Moi, je l'ai connue beaucoup plus récemment. Donc, peut-être que pour moi, l'Europe est un peu plus... J'ai un sentiment d'appartenance à l'Europe autant que j'ai un sentiment d'appartenance à la France. Et donc, j'en attends beaucoup plus de l'Europe, peut-être, que les générations passées. Et à l'heure où les souverainismes et les populismes sont de plus en plus présents, en particulier depuis les élections de 2014, et pas uniquement en Europe centrale, on retrouve ça aussi en Italie, en Autriche et même ici en France. Eh bien, j'ai envie de dire qu'on en attend quand même beaucoup de l'Europe et on a encore des promesses. Enfin, l'Europe a encore des promesses à nous faire. Et j'ai envie que l'histoire européenne reste, ne soit plus une juxtaposition de romans nationaux et qu'on arrive à écrire un roman européen, finalement.
C'est une très belle fin. Niklas Munch, un Allemand ici, dans cette ambassade de Roumanie, pour ce dernier Carrefour de l'Europe. Niklas, c'est vous qui avez le dernier mot de cette histoire.
Alors, pour moi, l'Europe, c'est d'abord la mobilité et l'échange. Donc, je pense que ça vaut, c'est la même chose pour beaucoup dans cette salle. Sans l'Europe, on ne serait pas là. Moi, en tout cas, je n'aurais peut-être jamais appris votre langue aux multiples subjonctifs. Et je n'aurais certainement jamais fait un stage au Carrefour de l'Europe. Et pour moi, c'est vraiment l'Europe, c'est le symbole de l'échange et aussi de l'entente entre les peuples.
Merci, Niklas. C'est une bonne conclusion. Merci à tous les deux pour cet élan européen. Merci à tous les 5, Luca Nicolescu qui nous a accueillis, Jean-Louis Bourlan, Gilles Cressani, Pierre Aski et Sophie Péder. Merci à tous les 5 d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci donc, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir reçus chez vous si gentiment. Donc, 711e et dernier Carrefour de l'Europe. Et là, je vais entamer une série de remerciements, forcément, 13 ans, je ne peux pas faire ça en 30 secondes. À la technique aujourd'hui, il y avait Richard Rifono et mon grand complice Guillaume Munier, le roi du montage d'un studio en radio n'importe où et n'importe quand en moins de 15 minutes, avec qui nous sommes partis à la découverte des Européens de Reykjavik à Tbilissi et de Umeå. Umeå, c'est presque au niveau du cercle polaire en Suède et jusqu'à Malte. Ciao Guillaume. Merci à les directions et différents services de RFI qui ont permis de réaliser cette émission et bien d'autres. Merci à Maria Fonso. Un petit mot, bien sûr, pour les services de documentation que j'ai sollicités chaque semaine. Merci aux journalistes de Courrier International, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Ils sont tout au fond, mais je les vois quand même. Jerry, Sacha, Beniamino, Laurence, Valentin et Joël. Et aux centaines d'invités qui m'ont aidé à vous faire comprendre l'Europe, ce continent uni dans la diversité. Mille excuses pour tous ceux que j'ai oubliés. Carrefour de l'Europe cette semaine avec la complicité de mon tout dernier stagiaire, Kevin Bailly. Il me reste plus qu'à vous remercier, vous, les auditeurs et internautes de l'émission qui m'avez accompagné pendant presque 13 ans. Bon, il est maintenant temps de tirer ma révérence, si j'ai un peu de mal à le faire. Après 38 années à RFI, 25 ans de grands reportages dans une 60aine de pays, à vous raconter au quotidien la marche du monde. Et puis, c'est plus de 700 émissions pour découvrir et mieux comprendre l'Europe dans cette grande radio qu'est RFI, que j'ai eu le plaisir et la fierté de contribuer à délivrer une information de qualité qui s'est éparpillée un peu au gré des ondes aux quatre coins du monde. Et à l'heure des fake news et des post-vérités, ce n'est pas rien. C'est déjà quelque chose. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, mais le dimanche 19 septembre à la même heure, un nouveau Carrefour de l'Europe sur RFI. Je souhaite bonne chance à mon ou à ma successeur, je ne sais pas encore. Et tout de suite, évidemment, comme d'habitude, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir et à bientôt sous d'autres cieux.
Vivez sur RFI.